VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 mars 2019. En direct de Washington, Edressa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le gouvernement dissout une milice de chasseurs et limoge les chefs de l'armée après le massacre de plus de 130 peuls dans le centre du pays.
Aux Comores, l'opposition dit que l'élection présidentielle d'hier a été marquée par de nombreuses irrégularités.
En Afrique australe, le dernier bilan du cyclone Idai s'établit à plus de 700 morts et on craint une épidémie de maladies transmises par l'eau.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump se dit totalement disculpé par le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que nos dossiers en seconde partie.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le gouvernement a annoncé dimanche avoir mis fin aux activités d'une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs de l'armée au lendemain du massacre de quelques 130 peuls dans des attaques contre les villages d'Ogosagou, Wilingara et Guiwagou dans la région de Mopti. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le samedi 23 mars 2019, entre 5h et 6h du matin, des centaines d'hommes habillés en tenue traditionnelle des chasseurs ont attaqué de façon simultanée les villages de Ogosagou, tuant plus de 130 personnes. Parmi les victimes, il y a des femmes enceintes, des enfants de bas âge, des vieillards. Mohamed Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Dès que nous avons appris l'information, une force de réaction rapide de l'aménagement a été aussitôt déployés. De même, des mesures pour évacuer les blessés vers ces barrés ont été aussitôt prises.
Les assaillants ont incendié le village, brûlant 84 greniers et des animaux domestiques. Le gouvernement du Mali s'est réuni hier en conseil des ministres extraordinaires. Soumaïla Boubé Maïga, premier ministre du Mali.
C'est ainsi que nous avons procédé à la dissolution de l'association d'Anna Massagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État et de désarmer de manière active toute personne qui ne devrait pas être armée. Et puis, le conseil a procédé à la nomination du nouveau chef militaire, essayant de remobiliser encore plus de nos.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À noter qu'une délégation de ministres et de responsables militaires maliens s'est rendue dimanche sur les lieux de la tuerie qui s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin. C'est le plus lourd bilan d'une attaque au Mali depuis plus de 6 ans. Les affrontements se multiplient depuis 4 ans dans le centre du Mali entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU.
Élection présidentielle aux Comores, l'opposition a fait état de nombreuses irrégularités, notamment dans les îles d'Anjouan et de Moéli, où les bureaux de vote ont été saccagés. Le président sortant, Azali Assoumani, avait promis durant toute la campagne qu'il allait gagner au premier tour. Avant même la fin du scrutin hier, ses adversaires, au nombre de 12, ont crié à la fraude et au coup d'État électoral, appelant le peuple à la résistance et à la mobilisation. Dès avant le vote, des leaders de la société civile avaient exprimé des doutes sur le processus. Adinadi Youssouf est le président de la Fédération des associations comoriennes des droits de l'homme.
Vous avez une élection, c'est une compétition, mais une compétition qui repose sur des règles de droit. Or, justement, ces élections n'ont aucune règle, puisque le juge électoral, qui était la Cour constitutionnelle, a été supprimé, alors que le juge électoral doit être libre et indépendant. On a transféré ses compétences à la Cour suprême, alors que la Cour suprême n'a aucune compétence en matière électorale. Simplement, on sait qu'à la Cour suprême, c'est le président Zali qui nomme tous les juges.
C'était Adinani Youssouf au micro de notre collègue Abdou Chakour Aboud.
Les centaines de milliers de personnes affectées par le cyclone Idai en Afrique australe sont désormais menacées par une épidémie inévitable de maladies transmises par l'eau, notamment le choléra, ont averti les autorités. Elles ont encore revu le bilan à la hausse dimanche à plus de 700 morts. Près de 2 millions de personnes sont affectées par le cyclone et ses inondations en Afrique australe.
Le fils de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, incarcéré depuis septembre dans une affaire de détournement de fonds, a été libéré dimanche. Selon l'avocat de José Filomeno dos Santos, cité par l'AFP, la durée de la détention préventive avait expiré depuis des semaines. L'ancien patron du fonds souverain angolais a été inculpé de fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle.
Algérie, la conférence nationale proposée par le président Abdelaziz Bouteflika pour réformer le pays avant de transmettre le pouvoir est inutile et un nouveau président doit être élu maintenant. C'est ce qu'a estimé hier Hossein Khaldoun, le porte-parole du FLN. Sur la télévision privée Zahir News. Mais la direction du parti au pouvoir s'est rapidement démarquée des propos de son porte-parole, assurant dans un communiqué renouveler son attachement à la feuille de route décidée par le président Bouteflika, dont l'organisation d'une conférence nationale.
En Égypte à Pélière, des autorités ont boycotté la BBC après la publication d'un article jugé politisé et trompeur sur une campagne anti-Sisi lancée par des opposants sur les réseaux sociaux. Le site en arabe de la BBC avait publié vendredi un article au sujet d'un hashtag « Rassure-toi, tu n'es pas seul » relayé par certains opposants appelant à manifester contre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte occupe la 161e place sur 179 dans le dernier classement sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une entreprise de démolition illégale qui a échoué, c'est ainsi que le président Donald Trump a qualifié l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 aux États-Unis et l'éventuelle implication de son équipe de campagne dans une telle entreprise. Cette réaction survient après la remise du rapport final du procureur spécial Robert Mueller au ministre de la Justice William Barr. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Après 2 ans, Robert Mueller a conclu à l'absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou lors de la présidentielle de 2016. Par ailleurs, l'enquête n'a abouti à aucune conclusion définitive sur une possible entrave à la justice de Donald Trump. Le ministre de la Justice, qui est le premier destinataire du rapport d'enquête tant attendu, conclut de son côté que le document qu'il a passé en revue depuis vendredi ne mentionne aucun délit susceptible d'entraîner, à son avis, des poursuites judiciaires sur le fondement de l'entrave à la justice. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump est totalement disculpé par le rapport. L'un de ses avocats, l'ancien maire de New York et candidat à la présidence Rudy Giuliani, a déclaré à la télévision Fox, proche des conservateurs, que c'est une victoire claire et nette pour le président et ceux qui l'ont défendu. Au niveau du Congrès, les démocrates, aujourd'hui en majorité à la Chambre basse, et certains alliés républicains de Trump ont appelé à la publication du rapport complet, mais il revient au ministre de la Justice, William Barr, de décider de la quantité de documents à divulguer, tout en restant dans les limites de la loi.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va couper court à sa visite aux États-Unis à la suite d'un tir de roquette sur Israël qui a fait 5 blessés dans la nuit de dimanche à lundi. M. Netanyahou va rentrer au vu des événements sécuritaires aussitôt après avoir rencontré le président Trump pour, je cite, « diriger de près nos opérations ».
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Éliminatoire Cannes 2019, on connaît désormais tous les pays qualifiés pour la phase finale qui aura lieu en Égypte.
Oui, il manquait 10 pays et depuis ce week-end, on les connaît tous. Ainsi, dans le groupe D, le Bénin a pris le meilleur de 1 sur le Togo ainsi que le deuxième ticket pour la Cannes 2019. Le premier étant déjà promis à l'Algérie. Les écureuils vont donc faire leur grand retour en Coupe d'Afrique l'Afrique des Nations après 9 années d'absence pour le plus grand bonheur de leur coach Michel Dessuyé.
Le sentiment, on va dire d'abord, c'est une grande joie et une grande fierté aussi parce qu'on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. C'était pas un gros facile, je l'ai dit depuis le départ, mais aujourd'hui c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales, un groupe que je félicite parce que tout le monde était motivé, à l'écoute et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires et aujourd'hui on a la récompense.
En revanche, déception côté togolais, mais le sélectionneur Claude Duroy félicite tout de même les Béninois.
Le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain n'est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression.
Dans le groupe G, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo ont franchi le cap.
Les Zimbabwéens ont ruiné les espoirs des Diables du Congo 2-0, tandis que les voisins de la RD Congo s'en sont sortis face au Libéria 1-0. Et puis, l'Afrique du Sud a décroché son billet en battant la Libye 2-1 dans le groupe E. Enfin, la Tanzanie a également fait le nécessaire face à l'Ouganda 3-0 dans le groupe L pour valider son ticket.
Le Burundi a décroché une qualification historique.
Une grande première pour le pays, comme Madagascar ou la Mauritanie. Les Hirondelles n'avaient besoin qu'un des matchs nuls à domicile face aux Gabonais pour s'assurer une des deux premières places qualificatives dans le groupe C. Et ils l'ont fait. Résultat, un but partout. A l'inverse, scénario catastrophe pour le Gabon qui avait accueilli la présidente Coupe d'Afrique des Nations. Une CAN que ne jouera pas également le Burkina Faso malgré sa victoire 1-0 face à la Mauritanie. Le troisième de la précédente édition n'est pas parvenu à doubler l'Angola qui a obtenu sa qualification en s'imposant 1-0 au Botswana de Ouagadougou. Le récit de notre correspondant Salif Kabori.
Pour la première fois après 2008 au Ghana, le Burkina Faso sera absent à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Paulo Duarte, l'entraîneur des étalons du Burkina Faso, s'est fondu en excuses après l'élimination des étalons.
Je peux m'excuser beaucoup, je suis un homme, j'assume les défaites. On n'a pas réussi. Certains moments, on a dormi un peu. Quand on a réveillé, c'est pas grave. Ça, c'est la réalité.
Battu à Ouagadougou, les Morabitoun perdent la première place du groupe au profit de l'Angola. Un goût amer pour l'entraîneur de la Mauritanie, Martins Corentin.
J'avais dit aussi que ce match au Burkina servirait de préparation pour la CAN en essayant de nouveaux joueurs, un nouveau système.
Le président de la Fédération Burkinabé de football, Sita Sangaré, n'a pas évoqué l'avenir de Paulo Duarte avec le football burkinabé, préférant attendre la fin de son contrat en juin 2019. Ouagadougou, Salif Kabori, VOA Afrique.
On connaît aussi les deux qualifiés du groupe K.
Effectivement, Idrissa et ses deux places sont allées à la Guinée-Bissau, première après son nul de partout face au Mozambique, et à la Namibie, deuxième malgré un revers 4-1 en Zambie.
Enfin, dans le groupe B, à Yaoundé, le Cameroun n'a pas tremblé face aux Comores.
En battant les Comores 3-0, les Lions et notables ont pris la deuxième place du groupe B derrière le Maroc, sous le regard de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Gintap.
C'est le capitaine de jeu, Choupo-Moting, qui a ouvert le score à la 38e minute de jeu. Puis d'un tir croisé à l'entrée de la surface de réparation, Christian Bassogo va inscrire à la 53e minute le second but du match. À moins une minute de temps réglementaire, Clinton Ndié, entré en cours de jeu et après un joli slalom dans la défense comorienne, a porté le score à 3-0 en faveur du Cameroun. Choupo-Moting, capitaine des Lions Indomptables.
Je suis très content parce qu'on a gagné à la maison. On a montré une bonne réaction aujourd'hui.
L'équipe des Comores a eu de la peine à élaborer son jeu habituel. Faïz Selamani, attaquant de l'équipe nationale des Comores.
Le Cameroun a mis une grosse intensité aussi. Après un 3-0, c'était terminé.
Attendu, la décision du tribunal arbitral du sport, suite au recours introduit par les Comores et demandant la suspension du Cameroun après le retrait de l'organisation de la CAN au pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Pour terminer, les résultats des matchs d'hier soir en NBA. Et les Clippers et New York, 124 à 113. Et les Lakers et Sacramento, 111 à 106. Milwaukee et Cleveland, 127 à 105. Indiana et Denver, 124 à 88. Charlotte et Toronto, 115 à 114. Houston et la Nouvelle-Orléans, 113 à 90. San Antonio et Boston, 115 à 96. Golden State et Détroit, 121 à 114.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était hier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour discuter de la menace terroriste de plus en plus persistante dans le pays et annoncer son soutien aux Burkinabés dans cette lutte. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Journée de rencontre et d'échange pour les membres du Conseil de sécurité dans la capitale burkinabé. Des acteurs de la société civile au président Kabore, en passant par plusieurs membres du gouvernement. Le Conseil de sécurité a échangé sur des questions liées à la sécurité, la menace terroriste.
Les Nations Unies sont unies dans le soutien pour le Burkina Faso.
Christophe Osgen, ambassadeur de l'Allemagne auprès des Nations Unies.
Il y a des écoles qui sont fermées, il y a des centres de santé qui sont fermés, il y a à peu près 140 000 personnes qui sont déplacées dans leur pays. On a eu le message qu'il y a plusieurs écoles, des dizaines et même plus des écoles qui ont été ouvertes. Ça, c'est une très bonne nouvelle, des félicitations.
Les autorités burkinabées sont satisfaites de cette visite du Conseil de sécurité.
Nous avons eu des échos, j'allais dire, très favorables de la part de nos amis du Conseil de sécurité.
Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.
Il y a eu des soutien également qui a été exprimé par rapport à la situation du Burkina Faso et je pense que les explications qui ont été données, tout le monde a compris quel est l'enjeu autour donc des défis auxquels le Burkina Faso fait face. Il est important d'appuyer, d'aider et de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts, la lutte contre l'insécurité et dans la lutte pour le développement.
Le Conseil de sécurité a été ferme sur le sujet brûlant des exécutions sommaires de civils, dont certaines organisations de la société civile accusent l'armée burkinabé d'être l'auteur. Christophe Osgen, ambassadeur de l'Allemagne auprès des Nations Unies.
Les enquêtes qui sont en préparation doivent être menées d'une façon impartielle par la justice. Il faut que les coupables soient punis. Il faut un message fort aux victimes. Il faut un message aux coupables. Mais c'est aussi un message à la communauté internationale. La lutte contre le terrorisme doit être menée en respectant les droits de l'homme. Le président a mis l'accent sur ses actions que, pour lui aussi, le respect pour les droits de l'homme est très important.
Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières qui ont fait plus de 300 morts depuis 2015. Aussi, les membres du Conseil de sécurité ont demandé aux autorités burkinabè de travailler à calmer les tensions entre les différentes communautés et ethnies. Début janvier à Yirgu, dans le centre nord du pays, les Peuls ont été ciblés par des villageois aussi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense, les Kogluwego. 49 personnes ont été tuées, selon un bilan officiel. Mais plusieurs sources depuis lors annoncent plus de 200 morts. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Tchad, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, a présidé pendant le week-end à N'Djamena la première réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Une rencontre qui porte sur les perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales en 2019. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Après analyse de la conjoncture économique de 2018 à 2019, il ressort de cette rencontre une légère réduction de la croissance au plan international. Selon le gouverneur de la BAC, cette situation se justifie par le durcissement des conditions financières et l'essoufflement du soutien porté par les politiques dans les économies avancées. Dans les pays de la sous-région, en revanche, l'activité économique de 2018 est bonne. Abbas Mahamat Toli est le gouverneur de la BAC.
Au niveau de la CEMAC, en 2019, nous allons avoir une consolidation de la production du pétrole
dans certains pays. Le niveau a augmenté, aussi bien les prix. Les courses étaient situées également dans la plupart des pays, comme nous avons constaté, au-delà de ce qui était prévu par les lois de finances. Et sur ces bases, l'activité en 2018 a été notre croissance de 3,2% dans la sous-région CEMAC.
Pour Dr Succès Masra, ancien économiste à la Banque africaine de développement, la croissance de 3,2% n'aura même pas d'impact sur la population tchadienne, puisque ce n'est pas la moitié de ce qu'il faut pour espérer améliorer la situation de la vulnérabilité de la population.
Sur les 4 dernières années, on a eu une croissance moyenne négative de moins 1%. Et chaque année, le taux de croissance démographique est de 3,5%. Ça veut dire pour attraper les moins 1 des 4 dernières années, là, il faut croître chaque année d'au moins 4,5%. Donc les 3,2, là, ça ne suffit même pas pour combler ce qu'on n'a pas fait sur les 4 dernières années. La moyenne de croissance qu'il faut à notre pays sur les 5 prochaines années, c'est minimum 11%. Ce n'est pas les 3,2% là qui est exhibé.
Pour Abbas Mohamed Touli, gouverneur de la BAC, cette croissance est encourageante.
Aujourd'hui, si vous avez 3 points de croissance dans un pays, mais monsieur, vous allez en ressentir les effets dans votre vie au quotidien. Si le sac de mille coûte moins cher que l'année dernière, ça, les gens le ressentent sur les denrées alimentaires. Et donc, moi, je pense que la tendance aujourd'hui est appréciable.
Docteur Succès Masra estime pour sa part qu'il faut plutôt diversifier l'économie que d'attendre le cours du baril du pétrole qui baisse et qui augmente comme un jeu de tambola.
C'est sur l'action de diversification économique qu'il faut aller. Et j'avais proposé d'ailleurs en son temps, par un courrier adressé au gouvernorat de la Banque centrale, la nécessité de mettre sur pied un corps de diversification économique pour l'Afrique centrale qui va travailler pour proposer des solutions pour une diversification économique. Et ceci va nous permettre d'être capable d'optimiser notre marché sous-régional. Parce que les 6 pays de l'Afrique centrale, c'est à peu près 50 millions de population. Ce n'est même pas un quart de la population du Nigeria. Voilà les vraies questions d'avenir.
André Kodumadingar Ndiamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Cameroun, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a célébré hier l'an 34 de sa création. Et cette année, cet anniversaire est célébré sous fond de vives critiques, notamment sur l'implication des militants du RDPC dans des détournements de fonds publics, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Zulntap.
De nombreux Camerounais imputent au RDPC une reculade de la moralité publique. En effet, plus d'une vingtaine de hauts dignitaires de ce parti sont soupçonnés d'atteinte à la fortune publique. D'autres anciens barons du parti purgent actuellement de lourdes peines pour le même délit. Ariette Ekwe, journaliste et militante politique, accuse un système cautionné par le président national du RDPC, Paul Biya.
Dès le départ, la fortune publique a été vandalisée. Et donc ces jeunes fonctionnaires qui sont arrivés aux affaires au milieu des années 80, ils ont vu comment il était possible de prendre l'argent à gauche à droite. Maintenant, Biya, on trouve des milliards dans les chambres. C'est encore une république. Comment se fait-il que des fonctionnaires soient plus riches que des industriels? C'est lui qui a insufflé ça et qui déclare un peu, c'est bien, nous on serait contents. Hein?
Le tribunal criminel spécial a condamné le 20 mars dernier un ancien ministre des Finances et un ex-directeur général de la radio et télévision publique. Ces deux anciens militants du RDPC sont condamnés pour le détournement de plus de 18 milliards de francs CFA. Beaufort Essama est cadre du RDPC dans le deuxième arrondissement à Yaoundé.
Dans le parti, on le condamne. Si on l'appréciait dans le parti, le président du parti étant du RDPC, il aurait couvert ses militants. Alors comme il condamne cette façon d'être et tous les militants le condamnent, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de brebis galeuses.
La rigueur et la moralisation sont les deux credos que le président national du RDPC a prôné dès sa prise de fonction comme président de la République en 1982. Rappelle pour sa part Ruben Soutchou, président du comité de base RDPC Mokolo 4B à Yaoundé.
Il faut rester réaliste dans la vie. Quand le président de la République a pris le pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Aujourd'hui, ils sont responsables de leur propre turpitude.
C'est à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest en zone anglophone, que le RDPC a vu le jour. 34 ans après sa création, le parti reste leader sur l'échiquier politique, n'a jamais perdu officiellement un scrutin et met à son actif la paix au Cameroun, selon ses militants.
Le RDPC concourt à maintenir la paix dans notre cher beau pays. Le RDPC a apporté sa part de pierre pour l'édifice de notre cher beau pays, le Cameroun.
Il a
produit le développement, il prend en quelque sorte le vivre ensemble, ce qui est une valeur très importante pour notre pays.
Le vivre ensemble est cependant mis en mal depuis 2016 du fait de la crise anglophone dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, VOA, Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche s'est réjouie de la fin de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, avec la conclusion du procureur spécial Robert Mueller, écartant l'idée de collusion entre la campagne du candidat Donald Trump et Moscou. Par ailleurs, le rapport final n'a mentionné aucun délit, du moins selon le ministre de la Justice William Barr, aucun délit qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires sur le fondement de l'entrave à la justice. Pour une première analyse, Gaby Dorcy l'a joint l'ancien secrétaire d'État adjoint américain Herman Cohen.
Oh, c'est une bonne nouvelle pour le président, parce que lui-même ne cessait pas de dire pendant 18 mois maintenant qu'il n'y avait pas de collusion et que lui et sa campagne n'ont pas coopéré avec les Russes pour faire la fraude dans les élections américaines. Donc, il doit être très heureux maintenant.
Avant de prendre l'avion pour revenir à Washington, de la Floride où il était, le président Donald Trump a réagi, on dirait qu'il était un peu en colère. Il a jugé honteux ce qui lui est arrivé. Il a dit que l'enquête l'a complètement disculpé, mais que c'était honteux d'avoir fait subir cela à un président. A-t-il raison?
Non, c'est lui qui ne cessait pas de parler de ça. Pendant l'enquête, c'est lui, Trump, qui ne cessait pas de parler de ça. C'est une enquête qui est stupide, ridicule. Sauf que c'est lui qui a s'imposé sur lui-même.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le Congrès des États-Unis va poursuivre ses propres investigations sur le président? Devrait-il le faire?
Les démocrates ont gagné majorité dans la Chambre dans l'élection de 2018. Et maintenant, ils ont le droit de mener des enquêtes. Les présidents de plusieurs commissions de la Chambre ont dit qu'ils vont poursuivre des enquêtes, pas seulement sur l'ingérence russe et la coopération, mais est-ce qu'il y avait des choses criminelles dans ce que Mueller a trouvé, par exemple, dans les affaires de l'organisation Trump Hotel.
Mais, ambassadeur Cohen, quelles pourraient être les retombées politiques d'une telle démarche de la part des démocrates?
S'il trouve que, par exemple, l'hôtel que Trump a voulu construire à Moscou était financé par l'argent blanchi des criminels, par exemple, dans les banques de Chypre ou des banques à Moscou, ça peut être un marque contre Trump et contre son organisation.
Oui, ça c'est un gros si, mais est-ce que cela pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump pour 2020?
S'il trouve des choses criminelles, non. C'est pas. Mais s'il trouve rien, bien sûr, Trump peut répéter, ils m'ont cherché partout, ils ont cherché des fausses nouvelles, etc. Je suis persécuté. Et les gens qui sont pour lui, parce qu'il a une base de citoyens qui sont farouchement pour lui, ils vont continuer à voter pour lui, non, bien sûr.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Participez à notre magazine interactif « À votre avis » du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. « À votre avis », l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. « À votre avis », c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les
les amis. Ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le Top 10 American Music. Les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nashwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.